France Inter.
Le plus important, Gustave, ce sont les enfants.
Oui, bien sûr, Ghislaine.
Arrêtez de vous tourmenter comme ça. Hein. La forêt n'est pas si dangereuse. À part, évidemment, s'ils ont la malchance de tomber sur des loups.
Des loups, il y a des loups.
CO2, mon amour.
Ça fait 3 ans qu'on les a réintroduits dans les forêts du Berry. Non,
mais vous êtes un grand malade. Pourquoi vous avez réintroduit le loup?
Ah, c'est pas moi, les écolos. Personnellement, j'avais voté pour l'ours. Ça ramène plus de touristes.
Jésus-Marie-Joseph, des loups.
Denis Chesson.
Il y a des loups.
Eh ben oui, il y en avait partout en France, il suffit de regarder la toponymie. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, une émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite, avec Lison Berger à la technique, notre collaboratrice c'est Camille Blanès, et c'est Xavier Pestugia et Marie Pasquet qui réalisent cette émission. Avec un petit édito qui n'est pas écrit par ChatGPT, ce qui est déjà une très bonne nouvelle. Bon, alors, entre un Père Noël qui trimballe plus d'emballages que de cadeaux, une trêve moscovite avec 70 missiles dans la hotte, un TGV sans conducteur désespéré, des terres agricoles truffées de microplastiques, un cyclone social et plus d'arbres à Mayotte, un monde toujours aussi dépendant du charbon, oui je vais arrêter là quand même, hein. L'abattage de centaines de chamois dans le Doubs, j'y reviendrai, et la politique qui nous incite à bouffer des anxiolytiques? Stop! Une pause pousse, on n'en peut plus. Et en se penchant à la grande lucarne, comme l'escargot, on tente une antenne hors de la coquille, histoire de se sentir un petit peu le vent là comme ça, et paf! Ça recommence. Alors quoi? Eh ben on se met en boule et on s'accroche soi-même au sapin. Alors une bonne nouvelle, la forêt n'est plus dans le giron du ministère de l'Agriculture, pour qui la notion de biodiversité forestière était, on va dire, assez exotique. Les chênes, douglas, châtaigniers, leur humus, les bois morts pleins de vie, sont raccrochés au ministère au titre à rallonge, bon, on va dire celui de l'écologie. Qu'en fera-t-il après? On verra. L'autre jolie nouvelle, alors imperceptible encore, mais la lumière grandit, oui, la lumière élargit doucement l'horizon, le solstice d'hiver, grand balancier du temps, de l'espace, de notre terre qui est aux cieux, flottant dans la Voie lactée, eh bien le solstice d'hiver, à coup de petites minutes quotidiennes, repousse le noir en écartant les rideaux du ciel. Alors nous les animaux, les végétaux, ben on le sait déjà, on vit au ralenti, on se calfeutre, on prend notre dose de froid, de gel nécessaire. Reste qu'au pied des cadeaux, les seules choses qui brillent vraiment sont les yeux des enfants qui ne savent pas encore tout, et c'est tant mieux. Ah, que ça fait un bien fou, la lumière qui danse dans les yeux des enfants. Dehors, il y a la neige, 3 buses enivrées, qui voltigent dans un ciel pur, et quelques écureuils qui jouent les dingos de branche en branche, à contre-jour d'un soleil rasant. Et c'est juste magnifique, toujours, d'avoir la nature qui suit son petit bonhomme de neige, de chemin, indifférente à la folie des hommes. Et tenez là, cette boulette de plumes rouge frissonnante qui plastronne dans le buisson, qui chaparde ce que les mésanges gaspillent depuis les mangeoires. Cette perle noire qui vous fixe là, c'est le rouge-gorge, toujours présent, fidèle. Et cette simple vision nous enchante. Les petits princes du jour sortent le museau, le nez gelé sous le bonnet de laine. Ils oublient écran et console, ils sourient, rient et battent des mains en roulant de grosses boules blanches et terreuses. Alors bonne nouvelle encore, l'intelligence artificielle ne sait pas rire. Non, elle va nous avaler, mais elle nous laissera l'humour. Alors, une carotte, un vieux chapeau, une écharpe, deux pommes de pin pour les yeux. Nous ne sommes pas seuls sur Terre et c'est rassurant. Alors à vous aussi, je vous souhaite de réapprendre la Terre et de vivre moins vite, mais plus intensément. Et donc nous allons partir dans les Hautes-Alpes, superbes, nous allons partir dans le Champsaur avec Jean-Michel Bertrand, donc avec quelques loups. Nous allons aussi marcher dans cette neige la nuit pour les retrouver.
Chou, calamassou, chou, calamassou. Qui m'a poussé à te dire bonjour ce jour-là, sache. Qui m'a sommé de foncer tout droit dans le dos, sache. Qui me l'a soufflé, m'a soufflé. l'actualité.
Enchantée.
Enchantez-moi, c'est l'amour. Pourquoi je t'ai mon dévolu sur quelqu'un d'autre que toi, Sacha? Pour toi, je m'ennuierai jusqu'aux chutes du Niagara, Sacha. Sacha. Sacha.
Moi.
Qui a fait le premier pas, qui sera le dernier à sonner le glas? Oh, qui a fait?
I don't wanna wait.
Son avis pas, qui sera le dernier?
I don't wanna wait.
M'a soufflé l'idée, bonjour. Bonne et enchantée, enchantez-moi, c'est l'amour. Quelqu'un d'autre que moi, Sacha. Pour toi, je pourrais même disparaître.
Et ben voilà, écoute, ça virevolte, on ne retient pas grand-chose, mais en tout cas, ce n'est pas désagréable. C'était Bonnie Banane, c'était Sacha. Alors, c'est très marrant parce qu'en fait, Sacha, c'est le prénom du fils de Jean-Michel Bertrand que nous retrouvons tout de suite, où ça, dans le champ de sort.
Il fait froid, mais sec. Mais enfin, de toute façon, on peut dire que dans les champs de sort, on a 5 familles de loups répertoriées aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est à saturation de ce que peut supporter le territoire. Donc en gros, dans 30 ans, il n'y aura pas plus de loups qu'aujourd'hui ici, parce que les loups, ils font le ménage entre eux, hein. Régulation, territorialité. En revanche, il y aura plus de loups ailleurs, parce qu'il y aura eu ces phénomènes de dispersion, et on est sur des foyers donc de reproduction et de dispersion. Mais là, dans cette vallée-là, qui est la vallée de mon enfance, ce que je dis toujours, et que les gens ont du mal à comprendre, c'est que le premier ennemi des loups, ce sont les autres loups, avant tout. Je veux dire, leur problème à eux, c'est la territorialité. Et malheureusement, on est encore dans cette culture de gens qui croient que la nature doit être régulée et gérée par l'humain. Alors que les prédateurs sont régulés par la disponibilité de proies sur leur territoire.
Animal de l'hiver et aussi des quatre saisons, loup et loup se rencontrent sans application, sans passer par un site de rencontre. Alors direction les Hautes-Alpes, donc très beau territoire de cœur. On est dans le nord de la région sud, donc c'est un endroit merveilleux là que m'a fait rencontrer Christian Couloumi, il y a déjà pas mal de temps, donc président de l'association Envergure Alpine. C'est aussi un paradis pour les grands cols et Christian m'a permis de rencontrer il y a une vingtaine d'années le cinéaste Jean-Michel Bertrand. Et cet homme donc prend son bâton, part seul à la poursuite de ses rêves d'enfant, donc pour voir entre autres les loups. La vallée des loups, ça c'était sa quête, son rêve, son accessible étoile hein, dans une haute vallée du Dévoluy juste à côté. Et puis après ça a été marche avec les loups, c'est-à-dire la notion de dispersion des loups. Et puis vivre avec les loups, donc dernier volet de sa trilogie où il aborde les moyens de cohabiter avec l'animal. Loup y es-tu ? Bah oui, bien sûr, il y est bien installé en France, hein, après un retour donc, naturel depuis donc, les Abruzzes, dans le Mercantour, en novembre 92. et après 70 ans d'absence liée à son extermination. Alors, Jean-Michel Bertrand n'est pas du tout manichéen, comme beaucoup sur le sujet. Il sait très bien la difficulté de l'élevage. Il sait aussi que les chiens errants font quand même pas mal de dégâts, et parfois même plus que les loups. Mais quand même, évidemment, ça va ennuyer sacrément donc les éleveurs et les bergers. Et malgré de gentilles menaces de mort, il poursuit son voyage. Il nous fait partager donc sa vallée du Champsaur. On est au nord de Gap, non loin de son affût à 2000 mètres d'altitude. Nous ne sommes pas très loin de Molines en Champsaur. Et allez, venez, il va faire pas très chaud. Tant mieux, un froid sec, il fait beau, c'est l'hiver.
Sur un territoire d'à peu près 150 km², territoire d'une meute, on a 2, 3, 4 loups en permanence, les parents, et puis un ou deux jeunes qui restent avec eux. Et puis quand ils font 5, 6 petits, à un moment, il va y avoir 10 loups à l'automne. Et puis au mois de mai d'après, au moment où la femelle va mettre bas, il y aura à nouveau 2, 3, 4 loups. Voilà. Il n'y aura jamais, sur ce territoire-là, 15, 20, 30, ce que les gens croient. Ils font le ménage eux-mêmes.
On est toujours donc face à cet animal qui est haï, admiré, espèce de catalyseur, hein, de loup émissaire. Et ça, c'est pas nouveau, hein, c'est une histoire quand même qui remonte à très très longtemps, alors qu'il a été en plus bien colporté, le petit chaperon rouge et tous les contes aussi pour enfants.
Oh, petit loup, quelle horreur!
Ta mère et moi, nous nous inquiétons de ton comportement ces derniers temps, mon garçon. Tu déshonores le terrifiant nom des loups.
Tu te laves les dents, tu vas au lit de bonne heure sans que nous ayons à grogner.
Mais je voulais vous faire une farce, c'était un jeu. Je m'amusais à faire semblant d'être gentil.
Oh, ça suffit! Il est temps pour toi de quitter la maison et d'apprendre les 9 règles de la méchanceté. Voilà pourquoi nous avons décidé de t'envoyer faire tes études chez le plus vorace et le plus terrifiant de tous les loups. J'ai nommé ton oncle, grand vilain.
Il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque où l'animal, effectivement, il approchait quand même peut-être plus proche des masures, comme on disait.
Il a toujours vécu parallèlement aux humains. Alors chez les Mongols ou ailleurs, le loup était admiré un peu comme un dieu. Mais c'est toujours excessif. Hein? C'est jamais le loup qui est ce prédateur assez basique et qui mène sa vie de loup. L'humain a toujours fantasmé le loup en bien ou en mal, selon les civilisations, mais il y a toujours eu une proximité. L'animal le plus proche de l'humain, c'est le chien.
Qui descend directement du loup.
Qui descend du loup depuis 15-20 000 ans, depuis le néolithique.
C'est marrant parce que quand on voit un caniche, on se dit « Non, de Dieu, c'est de l'ancêtre commun, c'est quand même le loup. »
C'est le loup au départ. Et en fait, on voit qu'il y a cette proximité avec les chiens qu'on connaît. Et les loups ont toujours vécu parallèlement aux humains. C'est-à-dire que, avant le néolithique, à l'époque des cueilleurs-chasseurs, les loups passaient derrière les humains qui avaient chassé et qui laissaient des carcasses pour finir les restes. Et les humains passaient derrière les loups qui avaient tué et pour manger les restes. Et il y a toujours eu ce côté proximité. Et on le voit aujourd'hui. Maintenant qu'il y a de plus en plus de loups ici dans le Champsaur, moi j'ai toujours autant de mal à les voir parce que l'animal est furtif et que je dois les filmer. Donc je dois me mettre, anticiper, me dire le loup va passer là, il faut que je me pose, etc. Mais il y a de plus en plus de gens en revanche qui tombent sur des loups la nuit en bagnole, qui les voient, et parfois tout près des villages, qui traversent la nationale. Donc ce mythe du loup éloigné dans la nature sauvage, vierge et tout, c'est un mythe. L'animal a une proximité avec l'humain parce que déjà, l'hiver par exemple, les chevreuils et tout ça descendent, ils se rapprochent des bas de vallée, donc des habitations, et les loups suivent. Et puis le loup est opportuniste, quand on a ces jeunes loups dispersés, solitaires, qui n'ont pas le groupe pour aller chasser les grosses proies, ils sont opportunistes, ils vont aller voir s'il n'y a pas un chat, un chien qui traîne ou des poubelles.
L'être humain aussi est opportuniste, hein, donc, et puis on est un peu quand même ennemi du moindre effort, donc lorsqu'on a une source d'approvisionnement, que ce soit de l'eau, la nourriture, on se pose, quoi, voilà.
Ouais, mais la seule différence, c'est que les équilibres biologiques font que les prédateurs ne font pas d'excès au niveau de ce qu'ils prélèvent.
Une fois qu'ils ont ce qu'il faut dans le ventre, ils vont pas chercher plus loin.
Voilà, et en plus, on a ce fameux équilibre. La taille du groupe et le nombre de loups sur un territoire dépend des ressources en nourriture. Et là, on s'est par exemple rendu compte, dans la vallée, là, dans le Déboluy, à côté de chez nous, où il y avait beaucoup de chevreuils et de mouflons surtout, qui avait été introduit par les humains pour la chasse après la guerre. On avait 1200 mouflons avant l'arrivée des loups. On est tombé à 400, donc les loups ont tapé dedans. Et puis maintenant, on est aux alentours de 450-500. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que déjà, les chasseurs ont réagi intelligemment en disant, bah, vu que les loups mettent la pression sur les mouflons, on va moins autoriser de tir
de mouflons pour,
soulager le truc. Donc là-dessus, ils ont été intelligents. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les loups n'ont pas fait disparaître du tout les mouflons.
Quelle merveille de soleil! On te remercie.
Les cascades de glace là-haut.
Oh là là.
Regarde celle-là derrière, regardez là.
Oh là 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 là.
Deux cascades de glace magnifiques. Il est violet, ce ciel des Hautes-Alpes.
Et on a notre arbre tutélaire, évidemment, le mélèze.
Le mélèze, ouais.
Qui est là, qui a quand même un peu perdu ses plumes, mais...
Bah, il perd ses aiguilles l'hiver. C'est le seul conifère qui perd ses aiguilles l'hiver. Alors là, on a pas mal de mélèze. Quand on monte plus loin, là-bas, on voit on a du sapin blanc, sapin pétiné. On est un peu essoufflé.
Ouais. Bah, c'est toujours faut se remettre. Alors là, on a nos arbres aussi, nos mélèzes. En forme de pipe, comme on dit.
Ouais, c'est la neige qui les fait pousser comme ça. Ouais. Ils partent, et puis à la force d'avoir de la neige l'hiver, eh bien ils partent à l'horizontale, mais leur instinct les pousse à aller vers la verticale, le ciel. Et du coup, ben, ça fait une courbure à la base. Et au plus la pente est importante, et au plus il y a des endroits enneigés, au plus les mélèzes ont cette forme de pipe. Vous allez tout comprendre. Ici, en bas, on a souvent des carcasses de chamois bouffées par les loups. Et en fait, ils les chassent là, dans ces barres rocheuses.
Ah, il les coince là.
Voilà, il les coince. Parce qu'en fait, il y a deux loups. Ou un loup qui va paniquer les chamois, les faire descendre. Et deux autres qui vont les choper en bas. Et ils les font sauter les barres et tout ça. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à
organiser.
Et voilà.
Alors le problème que l'on entend régulièrement, Jean-Michel Bertrand, c'est que le cher loup, il ne va pas attaquer forcément qu'une seule brebis. Alors, je ne sais pas s'il joue avec, mais on peut avoir 20, 30 brebis qui se retrouvent égorgées plus ou moins. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça?
Ça s'appelle le surplus killing ou l'over killing. Et en fait, c'est un phénomène instinctif qui est propre à tous les prédateurs et à tous les carnivores, d'ailleurs même les chiens. C'est-à-dire que lorsque les loups attaquent sur un troupeau qui est contenu dans des parcs ou autres et qui a panique, eh bien son instinct va être complètement déboussolé parce que d'habitude il est sur des chamois, des animaux qui fuient, qui sont hyper efficaces, on va dire. Et là il tombe sur des proies en permanence autour de lui. Ouais. Et du coup il va mordre, il va attaquer tant que ça court autour de lui. C'est une excitation, mais les chiens font ça et tous les prédateurs. Ouais. Pour illustrer ça, je donne toujours le même exemple. C'est l'exemple du renard. Si vous êtes chez vous, peinard, vous avez 10 poules, trois là, deux là, une là, un renard passe, il va cravater une poule, il va se barrer, il va la bouffer.
C'est ça.
Tranquille, vous en serez à peine rendu compte. En revanche, si vous fermez mal le poulailler le soir, qu'elles sont toutes dedans, et que le renard réussit à rentrer dans le poulailler, il y a panique à bord, le renard va tuer toutes les poules. Tous les éleveurs de poules le savent. Et il en bouffera même, peut-être même pas une, tellement qu'il est excité, parce qu'il y a ce phénomène. Ça s'appelle le surplus killing. Quand les loups tuent 5, 10, 15 brebis en en mangeant à peine une, c'est exactement le même phénomène. Mais évidemment, pour les gens qui ont cet esprit un petit peu archaïque de diaboliser le loup, ils se disent « oui, le loup, il tue pour le plaisir ». Sauf que quand il y a des chiens errants qui attaquent les troupeaux, c'est la même chose.
Ah, c'est exactement pareil, c'est et il y a encore plus de casse.
Voilà. Mais vous pouvez avoir des circonstances qui créent ces phénomènes de surplus killing, et il ne faut pas les nier. Et c'est aussi pour ça, en grande partie, que les loups sont assez haïs des éleveurs et des bergers, parce que le gars ou la nana qui se lève le matin et qui tombe sur 20 brebis cartonnées, 15 agonisantes, blessées et pas mangées, c'est un peu révoltant. Mais on a le même phénomène, je le répète, avec les chiens. Et ça, c'est très important. En fait, le surplus killing, c'est vraiment, dans ces cas particuliers, de panique.
Et nos oiseaux? On vous entend. Mes anges comme il faut, avec sa petite scie.
Ici, on a la mésange charbonnière. On a pas mal de mésanges huppées, mésanges noires, des mésanges de montagne, mésanges boréales qui ressemblent à la mésange nonnette, mais qui a un chant que j'adore, qui est très mélancolique. Si on en entend, je vous interpellerai. Ah, c'est très beau, la mésange boréale.
Bon, alors on peut le dire. On peut peut-être faire moins 4 là, moins 2. Fait chaud, on a chaud.
On a chaud parce qu'on marche et qu'on est au soleil. Ouais. Mais vous allez vous mettre à l'ombre, il fait toujours moins 5, moins 6.
C'est ça.
D'ailleurs, on voit que la neige, même au soleil, ne fond pas du tout. Elle reste poudreuse. Là.
Chaque petit virelet, chaque petit virage, là, hop. Je dirais pas une autre ambiance, c'est la même. Mais quand même une découverte. L'œil est toujours accroché.
Ah ben,
toujours.
Moi, ce qui me tue.
Tous les sens ici.
En montagne, c'est pour ça que je ne pourrais pas vivre ailleurs qu'en montagne, c'est qu'en fait, avec cette verticalité, avec ce relief, on a toutes les orientations. Il faut dire que là, on regarde à droite, on est complètement à Lubac, plein nord, avec justement les sapins, les mélèzes qui sont juste en haut, et les cascades, enfin les coins très 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 froids. À gauche, c'est
l'Adret,
et là, on est plein sud, donc la neige va fondre beaucoup plus rapidement.
L'Adret, c'est au droit du soleil, hein, c'est ça.
Hein. Et ce qui est fabuleux, c'est que non seulement on a ces orientations, on a aussi les saisons. Bon, là, on est en plein hiver, mais au printemps, par exemple, le printemps va arriver ici, au bas de la vallée. Il va arriver un mois et demi après, en haut. Donc, on peut rattraper l'hiver. Enfin, moi, je trouve ça dément. En fait, c'est un terrain de jeu extraordinaire.
Alors, restez avec nous, avec Jean-Michel Bertrand, dans ces Hautes Alpes. Pourquoi ? Parce que la nuit nous attend. Là, c'était le jour. Mais on va aller écouter les loups, donc la nuit, avec Jean-Michel Bertrand. Et d'abord, on va se faire plaisir, tenez, avec cette chanson.
Un jour, le roi des arbres réunit ses sujets dans son palais de marbre au cœur de la forêt. Le chêne à brosse et liane, le cèdre du Liban et le vieux pin des Landes consultent un vaste plan. Le vent porta la fève à travers les forêts. Les arbres de la terre ont déclaré la paix. Vivre était leur désir, porter chacun leurs fruits. C'était vaincre ou mûrir, leur devise et leur cri. Leurs fleurs en grand mystère, imperceptiblement, s'ouvraient vers la lumière en prenant tout leur temps. Et du cœur des charpentes, des coques des bateaux, au linteau des soupentes et aux traverses du métro. Du papier dans les lignes et du corps des crayons, le bois semblait revivre et devenait chanson. Libres de leurs amarres, les mâts qui naviguaient répondaient aux guitares et les arbres chantaient. Jamais de mémoire d'homme on entendit ce chant, et dans le cœur des hommes il résonnait comme un printemps. Si près de Palestine et l'arbre de Judée ont mêlé leurs racines autour de l'olivier. Les arbres de la terre se sont tendus les mains par-delà les frontières, au-dessus des humains. Et la rose des vents, échangeant les pollens, a mis du pommier blanc sur les fleurs de l'ébène.
Eh ben oui, c'est une chanson forestière. Je pense que c'est à peu près, si vous demandez mon amour, la seule émission on peut entendre encore de temps en temps un petit coup d'Yves Duteil sur France Inter. Donc c'était La Légende des Arbres. Merci à Thierry Dupin de l'avoir choisi.
Y'a quelqu'un ?
CO2, mon amour.
Loin de la civilisation empoisonnée, il fuit et seul.
Denis Chessoux.
Arpente la terre pour se perdre.
Sur France Inter.
En pleine nature.
Et en pleine nature, eh bien, nous y sommes avec Jean-Michel Bertrand, donc un homme qui pratique la pédagogie. Évidemment, il a des ennemis, puisque le loup est l'animal clivant donc, par excellence. Et c'est plutôt un homme manichéen, donc on l'a compris. Alors, ne pas aller au loup la nuit, eh bien, impossible. Il aurait manqué un sacré grand quelque chose. Alors couvrez-vous, donc c'est l'hiver, et oui, avec le plus beau des projecteurs, c'est-à-dire une quasi pleine lune, nous sommes dans le Champsaur, dans les Hautes-Alpes.
Ah ouais, là on a la lune qui se lève du coup, le haut des montagnes, là, est complètement blanc, éclairé. Et on a encore le fond de la vallée qui est noir, qui est sombre, avec les forêts, ici de Mélèze. Et toutes ces étoiles au-dessus de nos têtes, avec, avec la grande ours qui est pile là.
Oui, ça y est.
La grande ours avec l'étoile polaire, évidemment,
ouais.
Qui nous indique le nord. Et là, il fait nuit, il fait moins 10 degrés
ouais.
Au thermomètre, donc un vrai moins 10. Ouais. Et vu qu'on est en début de nuit, ben, ça va descendre encore. Demain, à 5, 6 heures, 8 heures même du matin, il fera certainement moins 15, moins 17 ici.
D'accord.
Et là, on va aller poser l'enregistreur, ce que j'appelle le piège sonore,
ouais,
pour essayer de capter les hurlements des loups la nuit.
Ouais.
À cette époque qui est vraiment l'époque du rut, une époque importante pour les loups, où les deux adultes, le couple, s'est un petit peu séparé des jeunes et ont tendance à les mettre un peu de côté.
Bah, ils ont besoin de leur intimité.
Et ils ont vraiment besoin de leur intimité.
Alors c'est quand même pas mal de se dire que nous avons cette grande ours dans le ciel et qui nous rappelle que pas très loin, donc Orcières, signifiait donc vallée et lieu des ours. Hein.
Ah oui, les derniers ours ont disparu ici à Prapic,
ouais.
Tout à côté d'Orcières, dans les années 30, 1930.
Ah,
donc ici, on avait des loups, on avait des ours, on avait tout ça, et puis on a voulu faire le ménage. Donc les ours, ils ne sont pas prêts d'être de retour.
Non, on s'en sent bien.
Je ne vais pas le mettre très loin, on va aller le cacher dans un petit bosquet. Là.
Ouais.
Alors là, il y a un truc de nid que j'adore. Essayer de respirer uniquement par le nez assez fort, d'inspirer. Est-ce que vous sentez pas que les poils du nez se collent ?
Si.
Et bien ça, c'est en dessous de moins 10. Là, pas besoin d'avoir un thermomètre.
D'accord, poils du nez qui se collent, plus que moins 10.
Une grande inspiration.
Ah oui.
Quand on sent que les poils collent, c'est moins 10.
Bon. Au milieu. Et ben voilà.
De lièvre qu'on voit grâce à ma petite frontale.
Et parce que là, on marche avec la frontale de Jean-Michel et quand même la lune, hein, faut pas exagérer. Elle est là.
Lui, on va le mettre. Là, il faut que je serre.
Alors là, c'est le trépied en fait avec,
trépied avec les petits micros.
Deux micros et évidemment ce qu'on appelle les bonnettes hein, pour abriter le.
Alors, de jour, c'est le vent. Un peu plus facile.
Ouais.
Là, je règle un petit peu mon petit trépied. Je vais orienter le Boris, il m'a converti au son. Et je suis accro
ouais.
À ces pièges sonores qui finalement sont un très bon complément aux pièges vidéo et qui nous permettent d'entendre ce qui se passe la nuit. C'est génial. Je suis excité comme un pou. Et là, on peut s'en aller.
Allez.
Là, ça va tourner jusqu'à ce que je revienne. Demain, et on va voir tout, on va pouvoir écouter tout ce qui se passe. Ça va, pas trop froid ?
Ah, ça va, j'ai juste la main droite quand j'ai retiré le gant.
Et ouais.
Pour pouvoir contrôler le magnéto, c'est plus compliqué, mais sinon ça va bien.
Ah ben, là, ça... Alors là, on va s'arrêter.
Ouais.
Au fur et à mesure que la lune monte, ça s'éclaire de plus en plus tout autour.
Partout.
Non, mais sans déconner. Qu'est-ce qu'on veut de plus, quoi?
Et donc, l'idée, c'est quand même...
Chut. Écoutez.
Oh la vache, on les entend.
C'est loin, attends. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre les oreilles en porte...
Ouais, je comprends bien.
Alors, au parleur.
Vas-y, on entend.
Ça vient de la gauche. Il y a l'écho. Chut. Et là, il n'y a qu'un appel.
On est dans cette période du rut, hein, on est bien d'accord. Qui appelle qui, là ?
Je suis en plein questionnement,
là,
en ce moment, là-dessus. Parce que du fait du travail sonore qu'on est en train de faire depuis pas longtemps, depuis quelques semaines, j'ai vraiment l'impression, là, quand on a eu les premiers enregistrements, on aurait pu dire, ouais, c'est des jeunes, parce qu'il y a des espèces de jappements, de cris un peu étranges. font plutôt louveteau ou jeune loup. Et en fait, ce dont j'ai l'impression, c'est que le mâle appelle la femelle. Et d'ailleurs, on entend. Hein. Écoutez là, écoutez. C'est un hurlement, on va dire, classique de loup. Et il n'y a pas de réponse pendant un bon moment.
Ça veut dire qu'elle elle peut être loin.
Elle peut être loin, oui. Ils ne sont pas forcément côte à côte tout le temps. Elle peut être un peu loin. Ils sont dans le même secteur, mais elle est un peu plus loin. Et puis là, ça l'agace, donc il appelle. Et là, quand on écoute bien, écoutez bien.
Ouais.
Ces trucs. Cette femelle, on la voit presque visuellement en l'entendant, qui est en train de frétiller, de jouer. Et en fait, je pense qu'on est sur des comportements de parade nuptiale, de rude. Ouais. Avec le mâle qui appelle, la femelle qui répond, mais qui en même temps le provoque, l'excite. Et là, on est vraiment dans cette période de ces nuits encore très froides de février. Le rut va durer jusqu'à la mi-mars. On a eu des accouplements au mois de mars, 15 mars fréquemment.
Alors, à la fois diurne et nocturne.
Mais surtout nocturne. Après, quand on les a de jour, et quand, évidemment, quand on fait du cinéma, on a envie de les filmer de jour. On les a quand même beaucoup plus rarement, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on a des caméras automatiques infrarouges qui filment la nuit. Et c'est pour ça aussi que j'ai cette lunette là que vous voyez. En fait, c'est un monoculaire thermique. J'ai pris ça parce que c'est plus léger et tout ça, mais c'est d'une performance incroyable. Et ça permet de pouvoir voir la chaleur, c'est-à-dire un animal. Jusqu'à 1,2 km.
Eh non, mais attendez, là je vois des mulots ou des...
Là on peut voir les mulots, les campagnols, qui sont à 50, 60, 70 mètres de nous.
J'en vois deux là, hop là.
Là, regardez, là, on peut voir les renards évidemment. Nous pauvres humains, on a besoin d'un moulon, d'instruments, pour pouvoir capter... un centième de ce qui se passe dans cette nature. Alors que tous ces animaux qui sont là, que ce soit les mulots, les rapaces nocturnes, ici...
Ils touchent leur sens.
Il y a la chouette léchette, la chouette de Tangmam, il y a les renards, il y a le blaireau, sans parler de tous les ongulés, hein, évidemment, des loups et autres. En fait, il y a le web de la nature. C'est les pipis, les cacas, l'odorat, la vue, l'ouïe. Et en fait, chacun... maîtrise son territoire. Et nous, on arrive là avec nos gros sabots et on est obligé d'avoir des trucs de malade pour regarder et dire « Ah ouais, il y a un chevreuil là-bas. » On n'a pas d'odorat, on n'a pas d'ouïe, on n'a pas de vue. Et en fait, on a l'impression d'être les chefs, quoi. Ça nous remet à notre place. Hein.
Jean-Michel, là on les entend, mais est-ce qu'il y a quand même d'autres hurlements en dehors des périodes du rut
Ah oui, le hurlement fait partie des moyens de communication des loups. Alors on a des hurlements, tout simplement, c'est pour ça que c'est hyper aléatoire, parce qu'en fait ils hurlent pour se retrouver. Par exemple, parce qu'ils ne sont pas toujours ensemble, même au niveau du groupe, quand ils se paument, eh bien ils hurlent.
D'accord.
Pour se retrouver. Il y a aussi, alors il y a le hurlement qu'on est en train d'analyser en ce moment, qui est ce hurlement lié au rut, qui est peut-être pas ça, hein. En fait, je me permets de douter, j'adore ça, parce que c'est complexe et qu'on est sûr de rien. Il y a des hurlements territoriaux, et d'ailleurs assez actifs au moment de la période du rut, où les loups vont dire « ici c'est chez moi », alors ils pissent, ils font caca. Ça c'est tous les marquages olfactifs territoriaux, mais il y a aussi les hurlements qui font partie de ces signaux destinés aux autres loups, d'autres groupes. Et puis il y a aussi, alors là où les jeunes sont sur ce fameux site de rendez-vous et où ils attendent les adultes qui leur amènent à manger durant tout l'été, là il y a beaucoup de hurlements, justement de contact.
D'accord.
C'est-à-dire que les jeunes bougent quand même un petit peu sur ce site de rendez-vous et quand les adultes arrivent, ben, ils gueulent et ils communiquent comme ça. En fait, c'est un moyen de communication.
Jean-Michel, alors sans passer par le col à 2200 mètres, on peut rentrer éventuellement un peu chez vous, plus tranquillement.
On pourrait aller se boire un petit génépi.
Ah ben voilà.
On dira même qu'on l'a mérité.
Non, on l'a mérité. Allez, on fait ça, puis on va continuer.
Et comme je dis toujours, c'est le génépi de moi.
C'est
le génépi de moi. Et c'est le génépi qui a été fait dans la cabane, là, à 2040 mètres.
D'accord.
Et c'est pour ça que ce génépi, je l'appelle le génépi 2040. C'est pas l'année 2040, c'est l'altitude. Et il va nous faire du bien, là, parce que...
Vendu. Allez, on y va.
J'espère que cette virée vous a fait du bien de retrouver donc Jean-Michel Bertrand. Et on ira, mais ce sera plus tard. Ça, on fera ça, je pense, au printemps. Le rencontrer donc, mais dans cette fameuse cabane, ce 2040. C'est aussi un lieu, le Champsaur. D'abord, c'est un très joli nom. Le Champsaur, ça veut dire le Chamblon. Ben oui, c'était ça, donc avec des céréales. Vous avez aussi un très bon festival qui s'appelle Retour du Monde, qui a lieu tous les ans, là aussi au printemps. Alors, Jean-Michel Bertrand, vous pouvez le retrouver parce que France Télévisions Distribution a eu la bonne idée de sortir la trilogie. Donc, trois DVD, La Vallée des Loups, Marche avec les loups et Vivre avec les loups, et puis aussi donc, les ouvrages qui sont aux éditions de La Salamandre. La semaine prochaine, on va débuter l'année avec Catherine Meurice, cette formidable dessinatrice. On sera chez elle, dans les Deux-Sèvres, et ça va nous faire aussi beaucoup de bien avec cette remontée du soleil. Merci à Thierry Dupin, merci à Lison Berger, à notre collaboratrice Camille Blanès, à Xavier Pessugia, donc, qui a réalisé cette émission, et aussi Marie Pasquet, donc, qui a mis tout cela donc, en onde aujourd'hui. On se retrouve donc, la semaine prochaine. Instagram, vous en avez l'habitude, LinkedIn, avec donc, les éditos que vous retrouvez sans être écrit, je le disais, par ChatGPT, Blue Sky, et puis évidemment l'application Radio France. Alors là, ne vous gênez pas sur l'application Radio France. Abonnez-vous au podcast de CO2 Mon Amour, de Bestioles, de tout ce que vous désirez. Il y a vraiment de la qualité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon passage d'année, une bonne fin de dimanche. Salut à tous.